BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à toutes et à tous, willkommen, bienvenue dans votre émission sur la République fédérale et le monde. Une émission un peu spéciale, je dois l'avouer, retour en studio, un vrai, avec un vrai technicien derrière la vitre. Après des mois de pandémie et d'enregistrement de cette émission à la maison pour croiser le moins de monde possible évidemment. Un retour en studio avec une rencontre sympa en plus. Dans un instant, des nouvelles d'Aminata Touré, première afro-allemande vice-présidente d'un parlement en Allemagne depuis 2019. Et puis dans ce magazine, à ne pas manquer non plus, un grand reportage à Mayotte, île française de l'océan Indien, au nord de Madagascar, et porte d'entrée migratoire vers la France pour de nombreuses personnes. Porte d'entrée pas jolie, les conditions de vie des demandeurs d'asile sont extrêmement difficiles et le mot est faible. Mais d'abord donc, l'actu en Allemagne. Los geht's, c'est parti. Je vous le disais, on débute ce magazine avec des nouvelles d'Aminata Touré. Peut-être son nom vous dit quelque chose, on vous en avait parlé il y a près de 2 ans sur cette antenne. C'était en août 2019, au moment de son élection comme vice-présidente du Parlement régional de l'État de Schleswig-Holstein. Élection qui avait marqué en Allemagne à plusieurs titres. Déjà parce qu'Aminata Touré est née en 1992, âgée donc aujourd'hui de 28 ans, un profil jeune en politique. Et parce que, ça ne devrait plus être un sujet, mais ça l'est toujours, le temps que les mentalités évoluent encore, parce qu'Aminata Touré est la première afro-allemande, comme elle se décrit elle-même, vice-présidente d'un parlement en Allemagne. Elle est née ici, dans la Bundesrepublik, de parents maliens. Aminata a la peau noire, une énergie débordante et un profil encore trop rare dans la politique allemande. Aujourd'hui donc vice-présidente du Parlement de Schleswig-Holstein, membre du Parti des Verts, elle s'occupe donc au quotidien de politiques importantes. La police, les crèches, les universités, les transports, les compétences des parlements, des Länder sont très larges en Allemagne. Et Aminata Touré a donc un parcours extraordinaire au sens propre du terme. Elle n'est pas née dans une famille aisée, rien ne lui était donné. Ses parents, en fait, ont fui le Mali après le coup d'État en 1991 et elle a grandi dans un centre pour réfugiés en Allemagne. Mais la jeune fille a donc travaillé dur, étudié la philosophie, la politique et elle s'engage chez les Verts et débarque au Landtag, le Parlement régional, en 2017. Une jeune élue sans arrêt en mouvement pour un discours au Parlement, en discussion avec des manifestants devant le bâtiment, invitée dans un média pour parler d'elle ou de politique. Près de 2 ans après son élection, donc, ceux qui la rencontrent régulièrement parlent d'une élue plus mature, plus professionnelle. Les innombrables discours, interviews et apparitions publiques ont laissé des traces sans qu'elle perde de son style très ouvert, racontent des confrères. Et pour ceux qui douteraient encore de ses capacités ou de quoi que ce soit, Aminata Touré a une réponse.
Je pense que j'appartiens à cette génération de personnes qui disent « nous ne sommes en quelque sorte pas acceptés ici, considérés comme ne faisant pas partie de cette société depuis longtemps, mais nous avons aussi notre mot à dire. Nous avons aussi des choses que nous décrions et que nous dénonçons, mais nous avons aussi des suggestions sur la façon dont les choses pourraient être améliorées. »
Régulièrement, Aminata Touré parle ainsi de la condition des femmes en Allemagne, dans la société en général, dans la politique. Des conditions de travail de la police ou encore de l'éducation et des programmes scolaires, par exemple.
Nous voulons que le colonialisme soit traité de manière plus intensive à l'école, afin que nous puissions mieux nous familiariser avec le racisme qui sévit aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous parlons de racisme anti-noir, nous nous demandons dans quelle mesure les images coloniales se sont renforcées au XIXe siècle et ont encore un effet aujourd'hui, pour ainsi dire. Et c'est pourquoi ce sont des choses qui jouent absolument un rôle ici, dans le Schleswig-Holstein également.
Des prises de position, un engagement, un travail qui lui valent, évidemment, on peut encore dire tristement, aussi des attaques. Attaques normales, on dirait en politique, c'est la liberté d'expression, sauf quand cela se base sur une couleur de peau et rien d'autre. Ainsi, Aminata Touré doit aussi faire avec les messages de haine sur les réseaux sociaux. Mais plus important encore peut-être, elle a aussi désormais des milliers de personnes qui suivent avec bienveillance son travail au quotidien. Un poids aussi à gérer. La jeune fille dit ne pas vouloir décevoir tous ceux qui attendent beaucoup d'elle. Elle a encore près d'un an au Landtag de Schleswig-Holstein pour défendre ses idées. Elle ne compte évidemment pas s'arrêter en si bon chemin après les élections régionales l'an prochain. On en reparlera évidemment. Et en attendant, si vous êtes un peu germanophone, la jeune fille vient de publier un livre « Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt »« Nous pouvons être plus, le pouvoir de la diversité ». D'Allemagne, avec l'actualité de la semaine marquée encore par des soubresauts dans l'église catholique, deux visiteurs apostoliques envoyés par le pape directement depuis le Vatican sont arrivés à Cologne cette semaine dans l'Ouest. Objet de la visite, une enquête sur le traitement des cas d'agression sexuelle de mineurs dans le diocèse de Cologne. Diocèse, on vous en a déjà parlé hein, sur cette antenne, secouée par une grave crise depuis des mois suite à des centaines de cas d'agression sexuelle de mineurs notamment. Le week-end dernier encore, l'un des cardinaux les plus influents d'Allemagne a demandé au pape François d'être démis de ses fonctions. L'archevêque de Munich, Reinhard Marx, veut, dit-il, tirer les conséquences de l'échec de l'Église catholique dans cette catastrophe des abus sexuels. DW. Et puis un chiffre, un sondage trouvé dans le magazine mensuel de l'Église évangélique cette fois, sondage qui n'est qu'un sondage, mais dessine peut-être les premières conséquences à long terme de la pandémie de coronavirus alors que les réouvertures se poursuivent en Allemagne. 62% des Allemands disent vouloir dans le futur continuer à saluer gentiment leurs interlocuteurs lors d'une rencontre sans donner la main comme on le faisait avant la pandémie. Un quart dit aussi vouloir continuer à travailler depuis la maison. De nombreuses entreprises travaillent d'ailleurs sur des concepts de télétravail en ce moment pour le futur. DW. Vu d'Allemagne, deuxième partie, on prend donc la direction du département français de Mayotte, une île au nord de Madagascar dans l'océan Indien, où les demandeurs et demandeuses d'asile sont de plus en plus nombreux. L'île est une porte d'entrée souvent plus accessible que la France continentale directement. Près de la moitié des hommes et des femmes qui arrivent sont même désormais originaires de l'Afrique, des Grands Lacs. Mais l'entrée sur le territoire français n'est en rien plus simple à Mayotte qu'ailleurs en France. Conditions de vie et accueil déplorables, agressions même parfois. Le quotidien est tout sauf rose, comme nous le raconte sur place Cécile Massin.
En mars dernier, le Conseil d'État a pris une décision historique. La plus haute juridiction française a enjoint l'État français d'accorder sans délai des aides matérielles à une demandeuse d'asile burundaise dans le département de Mayotte, voyant dans sa situation une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Ce département français, situé au milieu de l'océan Indien au cœur de l'archipel des Comores, est progressivement devenu une porte d'entrée pour nombre de demandeurs d'asile souhaitant rejoindre l'Hexagone ou plus largement l'Europe. Près de la moitié d'entre eux sont originaires de l'Afrique des Grands Lacs et vivent généralement dans des situations de grande précarité. Kagé, que j'ai rencontré à Mamoudzou où il vit et travaille, est originaire de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il a rejoint Mayotte il y a 2 ans, après avoir transité par la Tanzanie et les Comores. Il se souvient aujourd'hui de ses débuts sur l'île.
Tout le début, c'est très difficile d'arriver à un endroit que tu ne connais personne et tu ne sais pas là où commencer. Heureusement, il y a un instructeur des demandeurs d'asile qui s'appelle Solidarité Mayotte. C'est une grande cité, mais c'est très saturé. Même quand je suis arrivé ici à Mayotte, même l'hébergement, je n'ai pas eu même l'hébergement. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été hébergé à la Solidarité ou quelconque une association.
Mandatée par l'État pour héberger les demandeurs d'asile, l'association Solidarité Mayotte peine à remplir ses missions face à l'afflux de demandeurs, alors contraint de trouver des solutions alternatives. C'est le cas de Didier, originaire du Burundi.
La Solidarité nous a dit « Oh, il n'y a pas de place ici, il y a des Africains qui sont là. On va demander les Africains là-bas, des Burundais là-bas, et voilà, tu vois. » Mais j'ai dormi à peu près deux semaines comme ça. J'étais SDF, tu vois. Et après, j'ai eu une maison avec une amie. Ce sont des Africains qui m'ont aidé de trouver la maison. Je ne connaissais pas personne ici. Ah oui. Mais parce que je parlais au Kirundi, et l'autre parlait au Kirundi, et l'autre, t'es dans notre famille, on va t'aider.
Certains demandeurs se voient néanmoins proposer un hébergement. Pourtant, leur situation n'en reste pas moins instable, selon Aurore Niel et Lucille Duchon, déléguées à la Défenseure des Droits.
De même, les propositions d'hébergement sont très problématiques. Quand on voit les demandeurs d'asile qui sont hébergés 3 mois ici, 3 mois ailleurs, 3 mois dans une autre commune, et qui ne savent pas dans quelques semaines où est-ce qu'ils vont être, c'est dramatique.
Diverses associations de défense des droits des étrangers, telles que la CIMAD, pointent par ailleurs les difficultés que rencontrent les demandeurs d'asile pour subvenir à leurs besoins. Non autorisés à travailler, la seule aide qui leur est versée est un bon alimentaire de 30 euros par mois pendant 6 mois, ce qu'ils estiment largement insuffisant pour vivre dignement. Pour l'avocate en droit des étrangers, Marjane Gaem, il est incompréhensible que les 2546 demandeurs d'asile du territoire continuent à être exclus des dispositifs nationaux d'accompagnement.
On est sur des chiffres extrêmement importants. Et alors à Mayotte, on n'a rien qui est prévu. Le territoire n'est même pas inclus dans le schéma national des demandeurs d'asile. Il y a un schéma national qui est censé mettre au point justement toutes ces questions d'hébergement, d'aide, comment gérer finalement l'afflux des demandes d'asile et faire au mieux pour que ce soit traité. Et on ne tient même pas compte de Mayotte. Mayotte, il va y avoir une feuille de route séparée.
À Mayotte, les exceptions aux droits des demandeurs d'asile sont nombreuses. Cependant, comme en métropole, leur dossier y est instruit en première instance devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis devant la Cour nationale du droit d'asile si le statut de réfugié ou la protection subsidiaire leur a été refusé une première fois, comme cela a été le cas pour Didier.
En décembre 2019, c'est là que j'ai eu la convocation et j'ai fait l'entretien. Là. J'ai fait 6 mois à attendre les résultats, 6 mois. C'était long, mais il m'a rejeté. Et j'ai fait pour le CNDA, j'attends pour le CNDA. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours. C'est la patience qui compte. Et c'est à Mayotte. Et la foi. Pour nous, les Africains. Pour nous, les demandeurs d'asile. Aïe, aïe, aïe.
L'attente de Didier est partagée par nombre de demandeurs d'asile. Sur l'île, l'instruction d'une demande dure 185 jours environ, contre 95 jours en moyenne en Outre-mer. Pendant cette période, les demandeurs se débrouillent comme ils peuvent, dans un climat de forte xénophobie que Maître Gaem a tenu à souligner.
Il y a une peur bleue au sein de la communauté africaine de circuler parce qu'ils savent qu'ils sont ciblés, ils sont accusés de voler les enfants, ils sont accusés de tout un tas de choses et ils ont extrêmement peur.
À l'issue de ce périple qui est faire une demande d'asile à Mayotte, certains obtiennent une protection de l'OFPRA et décident alors de partir pour la métropole. D'autres préfèrent rester sur l'île pour y travailler au moins un temps. D'autres encore, comme Didier et Cagé, sont toujours dans l'incertitude de savoir s'ils pourront ou non être régularisés. Alors que le chemin leur semble encore long, pour les avocats et défenseurs des droits humains, le combat continue.
Si vous voulez, on peut faire des choses pour améliorer la situation des demandeurs d'asile et des personnes étrangères sur le territoire, mais en réalité, il va falloir vraiment mettre un stop net à ce qui est en train d'être fait en ce moment pour repenser les choses. On ne peut pas continuer à laisser des gens vivre comme des bêtes.
Cécile Massin à Mayotte pour la DW.
Reportage à retrouver sur notre site internet dans la médiathèque onglet à Vue d'Allemagne. La semaine prochaine, nouveau reportage à l'étranger, nouvelles actus en Allemagne, et c'est Anne Le Touzé qui sera à ce micro. Merci à la technique cette semaine, à Miodrag, Sorik, à Kiel pour les sons d'Aminata Touré, et à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine, alles Gute, tout bon, bis bald, à très bientôt, tschüss!